Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et des finances. On prend tout de suite la direction de l'Arabie Saoudite, ou Saudi Arabian Military Industries, a signé deux accords tout à fait importants avec Lockheed Martin et Airbus Helicopter. Ces accords visent à positionner la SAMI, donc la Saudi Arabian Military Industries, parmi les 25 premières entreprises de défense mondiale d'ici 2030. Lockheed Martin apportera son expertise en matière de technologie avancée et Airbus Helicopter collaborera sur le développement de futurs hélicoptères, donc qui devraient être co-saoudiens dans le processus de réflexion puis d'industrialisation. Le taux de chômage dans le monde arabe, c'est une étude qui a été produite par l'ONU et qui nous indique qu'il y a toujours beaucoup de difficultés. Alors après, ce sont des chiffres onusiens, donc ils sont toujours un peu généralistes et on a toujours un petit peu du mal à savoir ce qu'est la réalité de ces données chiffrées. Mais ce rapport des Nations Unies fait état de 130 millions de personnes. Alors, après, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on entend par chômeur. Est-ce que c'est une personne qui n'a pas d'emploi du tout, ou est-ce que c'est un emploi qui n'est pas déclaré, qui n'est pas bancarisé avec une couverture sociale, etc. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui une problématique de l'emploi qui est réelle. Et c'est vrai que le moment difficile, un moment qui a été vraiment un moment clé pour le monde arabe, ça a été la période de la Covid-19, quand il y a vraiment eu cet arrêt. Le redémarrage des économies arabes a été difficile. Le Fonds monétaire international a publié des analyses sur les défis, les opportunités économiques, et il estime que les États-Unis et la Chine ont des rôles tout à fait importants à jouer dans l'économie, notamment africaine, notamment du monde arabe. Concernant les majors, Amazon double ses profits trimestriels. Le géant américain en ligne bénéficie aujourd'hui d'une hausse de 10% de ses activités au deuxième trimestre. Il a réalisé 148 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En revanche, en Chine, toujours beaucoup, beaucoup de difficultés. L'activité manufacturière est tombée dans la zone rouge. C'est l'indice PMI qui l'a publié. On est quand même sur une chute durant les dernières semaines. On avait un indice qui était de 51,8. Là, il est tombé en dessous de la barre des 50. Il est à 49,8. Dans ce type de calcul, c'est tout à fait important. Quand vous avez de telles réductions, ça veut dire que l'activité manufacturière, en fait, la Chine, une usine du monde, et bien celle-ci aujourd'hui connaît des difficultés récurrentes, et d'ailleurs on peut aussi les dater de la période de la Covid-19. On revient au Maroc. On a eu une semaine qui a été dominée par la célébration du 25e anniversaire du règne du roi Mohamed VI. Beaucoup d'événements, une déclaration royale également axée sur l'eau, la problématique de l'eau. Mais aujourd'hui, avec notre invité Michel Rumi, nous allons discuter du bilan économique de ces 25 années de règne du roi Mohamed VI. Michel Rumi, d'abord, merci d'être avec nous dans Economia. Quel est le diagnostic, quel est le mot qui vous vient pour exprimer votre ressenti de ces 25 années de règne du roi Mohamed VI?
Le bilan est positif parce qu'il y a une vision qui a été initiée il y a 25 ans, qui s'est traduit par des résultats qui sont très favorables, qui a permis, on va dire, une émancipation entre guillemets du Maroc, mais il y a encore aussi quelques faiblesses à travailler. Mais globalement, c'est positif et c'est ça qu'il faut retenir. Hein, aujourd'hui, dans un monde qui est très tourmenté par les crises économiques et géopolitiques, avoir une vision et s'y tenir, c'est quelque chose d'important.
Alors, parmi il y a eu beaucoup de chantiers, notamment des secteurs notamment visant à faire venir de l'automobile, de l'aéronautique, le secteur des énergies renouvelables. En fait, on a un peu le sentiment qu'il y a une sorte de panachage des intérêts qui ont été exprimés, de telle façon, un, à réduire finalement la dépense, la dépendance à l'agriculture, et puis développer une technologie et développer du savoir-faire, développer aussi des délocalisations d'entreprises pour que celles-ci viennent travailler au Maroc. Quelle a été la dynamique de ces 25 dernières années?
Eh bien, en fait, Mohamed VI a mis en œuvre des réformes de grande envergure, parce que, en effet, le Maroc, ces dernières années, a effectué des efforts considérables pour diversifier son économie, et il s'est engagé dans des processus d'industrialisation dans des secteurs à haute valeur ajoutée, comme vous l'avez rappelé, l'automobile, l'aéronautique et même les énergies renouvelables. Par exemple, avec la centrale Nour, le Maroc a souhaité maîtriser, on va dire, une ressource nationale qui est un taux d'ensoleillement exceptionnel. Et donc, il a créé une nouvelle filière solaire pour réduire en même temps les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire que le Maroc s'insère dans un, on va dire, dans une politique aussi de changement climatique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que cette centrale va permettre d'éviter l'émission de près de 4 millions de tonnes de CO2. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors pourquoi est-ce important? Parce que le Maroc s'intègre dans les grands problématiques environnementales, mais en même temps au niveau financier, première des choses, ça réduit l'impact négatif des importations d'énergie fossile, et notamment qui se traduit au niveau du budget d'État, mais en même temps aussi, ça réduit la dépendance énergétique du Royaume vis-à-vis de l'extérieur en renforçant sa capacité électrique. Et donc ça, c'est important. Mais en même temps, ce qu'il fait, c'est que, quand on voit en perspective, c'est que pour encourager le processus de diversification, le pays a investi dans des zones franches comme Casablanca Finance City ou Tanger Free Zone, qui offre aux entreprises qui s'y installent notamment certains avantages, notamment en matière de fiscalité et de réglementation. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la part de l'emploi agricole dans l'emploi total a baissé, et donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un virage progressif qui tend vers l'industrialisation.
C'est très important. Mais ce qui va aussi, c'est qu'on a eu, alors comme quoi l'économie, ça réclame somme toute à la fois de la vision, mais aussi de la souplesse, parce que c'est vrai que depuis le début de la guerre en Ukraine, avec la réorganisation des routes énergétiques, avec l'Ukraine et la Russie qui étaient des grands pays producteurs, enfin qui sont d'ailleurs toujours des grands pays producteurs de blé. Alors le Maroc a été quelque peu préservé parce qu'il s'alimente notamment en provenance d'Amérique latine, mais c'est vrai qu'il faut toujours régler la machine en permanence, avec aussi cette dynamique intéressante, c'est sur cette notion de transport, avec les lignes à grande vitesse qui ont fait leur introduction dans le pays.
Oui,
et ça a plutôt bien marché.
Oui, tout à fait. Ouais, ce qui est très important, c'est que durant ces 25 dernières années, les infrastructures ont été le pilier du développement. Elles sont encore. Ces grands projets d'infrastructure ont eu un impact économique national et territorial, et ont permis notamment en même temps le désenclavement de certaines régions. Et ce développement, ça a été multidimensionnel. Comme vous l'avez rappelé, c'est au niveau du transport. Par exemple, lorsqu'on regarde les routes, elles sont passées de 10 000 à plus de 57 000 km, c'est-à-dire multipliées par 6 pratiquement. Et ces routes jouent un rôle important dans le développement économique et, on va dire, l'aménagement du territoire et l'accessibilité à certains territoires. Quand on regarde les autoroutes, elles se sont développées il y a près de 1800 km. Quand on regarde les ports, on voit Tanger Med. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec Tanger, le Maroc a intégré depuis plusieurs années le top 20 de la connectivité logistique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut rappeler quelques chiffres, c'est que le Tanger permet des connexions, on va dire, maritimes avec 186 ports et près de un peu moins de 80 pays. C'est pas tout. Il y a les aéroports. Il y a aussi 18 aéroports avec des compagnies internationales. Qui dit compagnie internationale, ça veut dire des liaisons avec des principales capitales économiques et des places d'affaires mondiales. Et puis en même temps, le TGV, il y a plus de 2000 km de ligne, mais le TGV qui relie Tanger à Casablanca, ça a été le Maroc a été le premier pays d'Afrique à lancer un train à 320 km/h. C'est ce qui est très important dans un pays où, notamment, des infrastructures sont un peu en situation un peu difficile. Et donc là, on voit bien qu'on rentre dans une modernité qui fait que ça permet au Maroc de se développer, de relier en même temps à terme les grandes villes, et c'est ça qui est très important. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce réseau de routes permet de relier pas mal de villes importantes.
Oui, mais ce qui est aussi difficile, c'est que, et ça on peut comprendre que pour les autorités qui président l'économie du pays, ça reste une donnée qui est complexe, c'est-à-dire qu'à la fois... La connexion, l'interconnexion est absolument essentielle. Le Maroc est dessus et c'est très bien. Mais c'est vrai aussi que mécaniquement, ça expose aussi le pays au soubresaut. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où des crises qui sont extrêmement loin. Enfin, je pense notamment à la guerre en Ukraine. Je pense notamment à la Covid-19, qui sont des dossiers qui ne concernent absolument rien le pays. Lorsqu'on a des grands événements comme ça internationaux qui se déroulent mécaniquement par le fait de cette interconnexion. Il y a de nouveaux défis qui s'offrent au pays, et notamment le défi de l'inflation qui est extrêmement difficile à juguler puisque les fondamentaux ne sont pas maroco-marocains, mais ils sont internationaux. Et ça, c'est une donne qui est quand même qui est difficile à gérer, on peut le comprendre.
Ah oui, mais tout à fait. Bon, l'idée d'une plus grande industrialisation de l'économie fait qu'on a une forte résilience par rapport, on va dire, aux problèmes économiques généraux. Mais ce qui fait, c'est que les grands problèmes aujourd'hui, qui sont, que ce soit économique, politique, géopolitique, climatique, impactent l'économie marocaine. D'un certain côté, c'est positif parce qu'on se dit, tiens, le Maroc est bien inséré dans le commerce mondial, mais en même temps, il y a des percussions au niveau...
du chômage, de l'inflation, ouais.
C'est ça, et c'est ce qui est très important, c'est que en 25 ans, pour montrer l'essor, c'est que le PIB est passé en gros d'un peu moins de 40 000 milliards de dollars à 140. Donc c'est à peu près multiplié par 3,5. Ça fait une croissance annuelle moyenne de 4%. Donc c'est quand même assez important, alors que certains pays développés ont des difficultés, ça a permis des avantages, mais en même temps, ce qui fait, c'est que le Maroc doit relever certains, et de même nombreux, défis économiques et sociaux, c'est-à-dire que cette croissance a permis de réduire la pauvreté dans une certaine mesure, mais il y a encore des efforts à faire. L'inflation, il y a aussi cet aspect de gestion de cette inflation qui a permis notamment de faire, et donc il faut relancer. Inflation intérieure, parce que il y a des problèmes de tension, on va dire, encore des inégalités sociales et régionales, mais en même temps, ce qui fait, c'est que vis-à-vis de ça, le gouvernement a fait des efforts pour atténuer cette inflation internationale, on va dire, qui a été importée, et c'est ce qui fait qu'il y a toujours ce côté, ce qui, moi, me montre, en fait, que le Maroc arrive à s'en sortir, plus ou moins bien, c'est qu'il y a une forte résilience, et en ayant une diversité économique, ce qui fait que, en même temps, il y a encore du travail à faire, mais ça permet d'atténuer les conséquences extérieures.
Avec ce, vous parlez de diversité, il y a aussi cette question de la réorientation de l'économie marocaine, c'est-à-dire que sur la base de ce socle des 25 premières années du règne du roi Mohamed VI, on rentre, la planète Terre rentre dans l'ère de l'intelligence artificielle, de l'hypra-technologie. On a aujourd'hui beaucoup d'investissements, notamment en Arabie Saoudite, dans le Golfe. Les Émirats aussi mettent beaucoup d'argent dans cette affaire-là. Il y a des initiatives qui sont prises également au Maroc. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que sur l'exercice d'un règne, il y a comme ça ces successions de révolutions technologiques, de nouvelles grandes tendances. Alors, il faut les absorber, vivre avec, il faut prendre le train en route, hein, si vous me permettez cette expression un peu triviale, mais voilà, c'est vrai. Et là, c'est un défi extraordinaire, l'intelligence artificielle, extraordinaire.
Tout à fait, et avec ce que vous avez dit, c'est que justement, le fait de respirer, c'est que, en fait, ça donne une économie qui vit, en fait.
Oui, absolument.
C'est un poumon qui respire, et c'est ça qui est très important, c'est que, on va dire, dans une certaine manière, c'est si on a cette capacité à vouloir et à pouvoir répondre aux défis qui nous sont posés, ça permet de montrer que nous sommes dynamiques. Sinon, on subit et on n'a plus aucun avenir, d'une certaine manière. Donc, ça pose ce problème. Et donc, c'est vrai, en même temps, que ce qu'il faut bien voir, c'est que l'accueil d'investissement étranger montre aussi que d'autres partenaires croient en nous. Hein, et c'est ça le fait dans le Maroc, c'est qu'on a montré dans une certaine mesure que depuis 25 ans, on s'est adapté, on a eu une vision plus large aux défis internationaux, puisque depuis 25 ans, il faut bien voir, c'est depuis 2000, il y a beaucoup de choses quand on fait un retour rétrospectif dans l'économie et dans la finance internationale, il y a eu beaucoup de crises, et le Maroc s'en est plus ou moins bien sorti, et en même temps, il y a d'autres investisseurs qui arrivent et donc qui investissent. Et donc, c'est ça qui est très important. Et ça montre en même temps que le Maroc est ouvert à l'international, mais en même temps au niveau régional. Moi, je rappellerai dans une certaine mesure le mot de Hassan II, qui en 1976 avait dit que le Maroc ressemble à un arbre dont les racines nourricières plongent dans la terre d'Afrique, et qu'il y a un feuillage bruissant au vent d'Europe. Eh bien, c'est ça qui est important, c'est que la place du Maroc géographique, hein, lui donne un grand, on va dire, un rôle important dans cette mesure où, concrètement, il est aux portes de l'Afrique et de l'Europe. Et c'est ça qui est très important, c'est qu'il n'oublie pas, notamment, de s'intégrer, on va dire, avec l'Afrique. Hein. Il est devenu, on va dire, dans une certaine mesure, une nation de synthèse entre l'Afrique et l'Occident. Et en fait, c'est ça qui est très important, parce que pour moi, ce qui peut caractériser ces 25 ans, c'est que Mohamed VI a consolidé les racines africaines du Maroc, hein, à différents niveaux, que ce soit diplomatique, économique, même culturel, et il a fait en fait un hub régional qui est, on va dire, important. Et c'est ça qui, à mon sens, est important, c'est qu'il est devenu un partenaire incontournable de l'Afrique, et qui est, en fait, ça s'est traduit par, je dirais, sa réintégration en 2017 dans l'Union africaine, et avec toujours cette idée qu'il était, il est bon le jour où on rentre chez soi après une longue absence. C'est ça qui est très important, c'est qu'on a reconnu la place prépondérante du Maroc en Afrique, et c'est ça qui a été reconnu. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au niveau international, en même temps, eh bien, le Maroc a su conclure des accords de libre-échange, mais avec ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant ces 25 ans, il y a eu une globalisation de l'économie, il y a une prolifération des accords régionaux et commerciaux, et c'est ça qui fait, c'est que le Maroc s'est introduit dans cet processus en concluant, on va dire, des accords, tant avec des pays développés, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis ou d'autres, mais aussi avec des pays émergents, hein, ce sont les accords d'Agadir, c'est les accords avec la Turquie, qui en fait ont stimulé la croissance, mais donnent aussi en même temps la volonté d'ouvrir vers l'extérieur, parce que ça montre aussi cette politique d'ouverture, de vouloir s'intégrer dans un monde qui est toujours en changement.
Alors, il y a aussi un défi qui est important, c'est d'éviter le décrochage de certaines populations marocaines, hein, c'est de faire en sorte que les métiers de l'artisanat, je déteste cette expression parce qu'elle est extrêmement méprisante, mais ce qu'on appelle les petits métiers, donc les gens qui ont des revenus qui sont peu importants, mais qui vivent quand même, parce que tout le monde travaille, personne n'a faim au Maroc, hein, c'est important de le rappeler, de le dire, parce que c'est pas le cas dans tous les pays de la région. Mais c'est vrai qu'il est important que l'ascenseur social fonctionne, que les classes moyennes existent, qu'elles prospèrent. Je veux dire, parce que c'est aussi donner de la visibilité, c'est aussi donner de l'espoir, c'est aussi donner des capacités de progression à des gens qui au début n'ont rien, puis qui se retrouvent avec des situations qui sont tout à fait intéressantes en milieu et fin de carrière. Comment faire en sorte pour que cet ascenseur social puisse exister? Parce qu'on sait que ça a été aussi un chantier, hein, au cours de ces dernières années.
Oui,
ça existe, mais il faut aussi que ça se renforce.
Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que en 25 ans, je vais donner quelques chiffres, et excusez-moi, c'est que grâce à la croissance économique, le taux de pauvreté en 2001 était de l'ordre de 15%. Aujourd'hui, il est de l'ordre à peu près de 3%. Bien sûr, c'est toujours trop élevé. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le processus de réduction des inégalités et du taux de pauvreté a été là. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que il faut s'occuper de cette jeunesse, parce que cette jeunesse, c'est la richesse de demain. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a un processus d'accélération de la transition démographique qui devrait, a priori, porter sur le marché du travail, avec une proportion de plus en plus importante de la population active, alors que, en même temps, le pays doit prendre en charge notamment de plus en plus de personnes âgées et lutter contre la pauvreté. Donc on voit bien que là, il y a un enjeu important pour le Maroc qui devrait se jouer, c'est-à-dire comment intégrer de plus en plus, un, la technologie, tout en gardant un pied, dans la tradition qui est un socle essentiel du Maroc, mais en même temps de s'ouvrir vers les nouvelles technologies, vers les aspects de l'avenir de demain, hein, l'avenir tout court, pardon, et tout en intégrant. Donc, quelle est l'importance? C'est aujourd'hui permettre, notamment par la formation, de permettre aux jeunes de se former au métier de demain, et donc notamment par l'intelligence artificielle, par aujourd'hui les nouvelles technologies qui évoluent très rapidement, et c'est ça qui est très important. Et à mon sens,
mais c'est vrai
la formation initiale est importante.
Mais c'est vrai, Michel Aurémy, que je sais que vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que vous conviendrez qu'on ne peut pas tuer les petits métiers. C'est-à-dire que tous les métiers d'artisanat qui sont et puis en plus, c'est à la fois c'est économiquement, hein, mais c'est aussi c'est l'âme, c'est la tradition, c'est la raison d'être, c'est le savoir-faire millénaire aussi, c'est vachement important. Et il y a vraiment un espace d'intervention politique économique qui est compliqué de trouver le on sent que c'est pas simple en tout cas.
Oui, tout à fait. Mais c'est là où, à mon sens, il y aura une nouvelle vision, une nouvelle impulsion à donner, tout en faisant le grand écart entre tradition et, on va dire, nouvelle technologie. Oui. Parce que, bien sûr, le tourisme est très important. On est content de retrouver, je dirais, les métiers artisanaux, parce que le travail est bien fait. C'est toujours, on va dire, une marque de fabrique de l'entreprise Maroc. Mais également aussi, il ne faut pas non plus vivre sur son passé et penser demain que les jeunes de demain vont avoir une nouvelle logique, s'intégrer, ils doivent s'intégrer dans un espace où les nouvelles technologies vont jouer un rôle important. Et donc là aussi, il y a un nouveau chantier à lancer. Mais bien sûr, c'est très compliqué. Et c'est le Maroc et l'ensemble des pays qui doivent intégrer, cette donne. Mais en même temps, je pense que c'est relevé, mais il y a un effort important à deux formations, parce que la formation initiale plus la formation continue permettra au Maroc de s'en sortir.
Absolument.
C'est ça qui est, à mon sens, un des enjeux.
Et aussi l'encadrement du travail, c'est-à-dire avoir des feuilles de salaire, avoir des cotisations, parce que là, on va avoir des cotisations sociales qui sont importantes, mais il faut néanmoins les payer. Aujourd'hui, le pays a la chance d'avoir un programme de financement de la maladie. Il y a des réflexions qui sont portées sur l'amélioration des retraites, donc la bancarisation, donc la fiscalité. Je veux dire, c'est une sorte de package, le mot est un peu maladroit, mais une sorte de package qui accompagne le citoyen, et cela doit exister à la fois dans les start-up, mais ça doit aussi exister dans l'artisanat, parce que ces gens-là aussi ont le droit à la protection sociale.
Mais oui, et c'est ça qui est important. Je dirais, on passe d'un univers où il y a une absence de couverture sociale, ou pratiquement, à un univers où on doit assurer, excusez-moi de cette expression, la fin de vie des artisans qui ont des difficultés, qui se sont impliqués dans des petites structures qui est, on va dire, leur bébé dans une certaine mesure, qui permettent à beaucoup de monde de vivre. Et bien sûr, il faut développer cette couverture sociale en les aidant progressivement, mais ça veut dire aussi qu'il faut retrouver, on va dire, d'argent dans les finances publiques, donc qu'il y ait une plus grande partie, un taux d'activité de la population active dans l'emploi, ce qui veut dire qu'également aussi on va avoir des nécessités de trouver des emplois pour qu'il y ait une redistribution vers cette population. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui c'est un phénomène mondial, c'est le vieillissement de la population, et c'est ce qui est très important, c'est comment prendre en considération ce vieillissement de la population de nos seniors, avec des jeunes qui doivent trouver un emploi, qui doivent s'intégrer et qui sont en compétition mondiale. Oui. Et c'est ça. Bien sûr aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est là aussi éviter, de limiter qui est aussi une certaine gangrène, la corruption, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que dans une certaine mesure aussi, le recours à la corruption finit par produire des normes concurrente, on va dire, à celle que le droit tend à nous imposer.
Absolument.
Donc là aussi, il y a une lutte à travailler pour, je dirais, qu'il y ait une meilleure égalité des chances au niveau de la société.
Absolument. Mais c'est vrai aussi que par rapport au vieillissement de la population, de toute façon, des solutions, il n'y en a pas 354 000. Il faut que dès le plus jeune âge, le jeune travaille et qui cotise, parce que c'est le seul moyen que l'on a pour financer les retraites. C'est vrai aussi, j'aimerais bien qu'on se termine par ce point-là. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant aussi de rappeler sur ces 25 dernières années ce qui a été l'encadrement social autour du travailleur, l'équivalent de la sécurité sociale, la retraite, les droits syndicaux, etc. On sent quand même que ça a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé, n'est-ce pas?
Ben oui, tout à fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que en France, on appelle l'État-providence. Alors, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais concrètement, la providence, ça veut dire que d'une certaine manière, la providence, et de façon simple, c'est la main qui tombe, c'est l'argent qui tombe, et c'est l'État qui arrive. La question qui se pose, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'on construit un système social. Système social, c'est-à-dire que les actifs travaillent pour les seniors, qui, après une longue vie de dur labeur, peuvent aspirer à là-dessus. Et donc, l'État arrive à essayer d'inclure cette sécurité sociale au sens premier du terme, mais et c'est là qui est très important, c'est le retour au travail, c'est le travail, c'est la valeur cardinale de l'activité. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, au-delà du travail pour gagner sa vie, il y a aussi des relations sociales. Aujourd'hui, il n'y a pas que les relations par les réseaux, il y a aussi cette notion de relations interpersonnelles, mais en même temps, l'État doit s'inclure, doit permettre à chacun de pouvoir, on va dire, arriver à vivre dans une société où on évite les inégalités sociales, et notamment, en même temps, ce qu'il faut, en même temps, avec une problématique spécifique au Maroc, c'est des disparités régionales qui aussi mènent ça, parce qu'il y a aussi une disparité entre l'urbain et les régions.
Merci Michel Ruimi, merci beaucoup pour cette analyse que vous nous accordez sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Restons avec le discours du roi Mohamed VI à l'occasion donc des célébrations du 25e anniversaire. Et dans ce discours, beaucoup de mots consacrés à l'eau, au stress hydrique, à la nécessaire gestion de la sécheresse. Le royaume vit sa 6e année de sécheresse et le souverain a eu des mots sur le dessalement de l'eau de mer. Ce qui est tout à fait important. Je vous propose de décrypter cette partie du discours du roi Mohamed VI sur le dessalement avec Fouad Amraoui. Il est chercheur hydrogéologue.
Alors, cette station, la plus importante, c'est celle de Casablanca, dont les travaux viennent d'être lancés. Mais il y aura une grande, une méga station également à Nador, dans la région de l'Oriental, qui va avoir une capacité de 200 millions. Il y a un projet aussi de rajouter une autre station, une grande station à Agadir, parce que celle d'Agadir n'est plus suffisante pour toute la région. Il y a une station à Rabat, même si en Al-Barassi, Mohamed Ben Abdallah. Il y a une station à Tanger, bon, en plus de Jadida, Asfi, qui sont pour l'instant desservies à partir d'usines de l'OCP, plus d'autres stations de moyenne ou petite. Donc toutes les villes côtières marocaines à l'horizon 2030 vont être desservies en eau potable à partir du dessalement.
Merci beaucoup Fouad Amraoui, c'est sur ces mots que s'achève Economia. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.